rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance,
on bu de l'alcool et fumé du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pour répliquer,
ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
Un fasciste, la bombe, les villes, pour la bombe.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Hola, 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 bienvenue sur Radio Canut si vous nous rejoignez. Et il est l'heure d'un petit Canut Info pour ce jeudi 22 novembre, j'allais vous dire. C'est parce qu'il fait froid, vous voyez, mon cerveau a bugué ce soir. Donc le jeudi 22 mars 2018. Et comme nous vous le disions la semaine dernière, je suis accompagnée exceptionnellement, mais avec grand plaisir, par mon ami Jean-Yves. Bonsoir.
Bonsoir.
Je vous rappelle que Jean-Yves fait partie de la très très belle équipe de cette très très belle émission que nous aimons beaucoup ici dans le Canut Info du jeudi, cette émission qui s'appelle La Causerie, qu'on peut retrouver le dimanche soir sur Radio Canut, évidemment la rebelle, la meilleure des radios, sur le 102.2. On vous rappelle aussi que vous pouvez nous écouter en balado-diffusion sur le site internet de la radio, et puis que vous pouvez même télécharger nos émissions, les stocker, faire de l'archivage, un truc de dingue. Ce soir, nous allons vous parler donc de plein de choses pendant cette heure d'information, et nous aurons aussi le plaisir d'écouter nos deux invités, Fabien et Benjamin, du festival Hallucination Collective. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir, bonsoir.
Voilà, ça sera sur la dernière partie de notre émission et on va vous parler de plein de choses. Je pense qu'on parlera des barbares, on ira en Israël et en Palestine, on parlera peut-être de la Russie et puis plein d'autres choses, mais on verra. Le temps que nous accordons à tout ça, évidemment, nous allons parler un petit peu de grève aujourd'hui. Hein, c'était quand même une journée de manifestation, mais quand même, je voudrais juste ouvrir avec quelques mots qui ont fait déjà causer le Canut Info du mercredi hier, il faut bien le dire. Donc nous sommes dans la répétition, mais il y a des informations comme ça qu'on ne peut pas passer sous silence, parce que vous verriez le visage de Jean-Yves qui a le sourire et qui s'est illuminé, ce visage. Pourquoi? Parce que M. Sarkozy a des soucis avec la justice, qu'il a passé quand même quelques heures en garde à vue. Quelques heures, enfin beaucoup d'heures en fait. Bon, il a quand même pu rentrer chez lui le soir, hein. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire quand même 2 jours de garde à vue et de rentrer dans son lit, dans sa petite maison le soir même. Donc voilà, mais enfin c'est quand même un ancien président qui se retrouve encore face à la justice. Moi je me suis beaucoup intéressée, comme vous savez que j'aime bien aller sur les sites des médias français et aller lire un petit peu ce qui se dit avec les trolls et puis les gens de droite. Donc j'ai donc appris que c'était des juges rouges qui veulent condamner M. Sarkozy. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu cette appellation de juge rouge. j'ai vu aussi que c'était un petit juge bobo, ça aussi c'est assez classique, que c'était les islamo-gauchos qui avaient donc organisé cette attaque contre monsieur Sarkozy, que nous étions en justice bananière, oui j'ai même lu en justice bananière gauchiste, là il y a quand même quelqu'un qui s'est donné du mal entre elles, que c'était une justice spectacle, que des gens souffraient des erreurs judiciaires.
Oui. Bah c'est bien qu'ils s'en rendent compte.
Voilà. Et que quand même c'était scandaleux parce que tout ça était un procès politique financé par le contribuable. Hein, ah oui, toujours on en appelle à notre pognon dans la poche droite, hein, évidemment, bien évidemment. Donc évidemment il faudrait avoir une immunité à vie pour tous ces politiques, hein, quoi qu'ils fassent. Ça serait tellement simple, puis ça éviterait des frais inutiles pour nous. Les contribuables, enfin moi je paye pas d'impôts personnellement parce que je suis trop pauvre, hein, ça, je peux vous l'avouer à vous qui m'écoutez, mais enfin à vous qui payez des impôts et qui donc sommes solidaires de cette attaque contre monsieur Sarkozy, rien que pour ça j'aimerais pouvoir payer des impôts et donc de pouvoir financer les justices si tu veux. En tout cas quand même, hein, les juges du pôle financier soupçonnent monsieur Sarkozy de corruption passive et financement illégal de campagne électorale, hein, en l'occurrence celle de 2007, qui avait donc conduit à son élection en tant que président de la République française, et puis quand même c'est recel de détournement de fonds publics libyens, donc là on touche à l'étranger, hein, donc c'est quand même une sacrée affaire. Alors il y a aussi dans les trolls l'idée que il n'y a pas de preuves, il n'y a rien, que en plus tout ça c'est basé sur Mediapart, qui n'est pas un média que personnellement j'apprécie beaucoup, on a déjà expliqué plusieurs fois dans cette émission pourquoi, mais en tout cas ils avaient fait une enquête et que l'enquête a été attaquée et qu'aujourd'hui il y a eu des experts qui disent que cette enquête, eh ben, elle est solide et que c'est même sur cette enquête que la justice s'appuie aujourd'hui. Donc voilà, comme nos amis du Canu Info du mercredi, donc d'hier soir, nous sommes très très heureux donc de ces attaques judiciaires contre monsieur Sarkozy. Évidemment, tout ça risque de prendre encore du temps, mais ça veut dire que même un ancien président aujourd'hui en France peut quand même avoir des soucis avec la justice. Alors oui, on sait que monsieur Chirac a échappé à bien des attaques, et on en est bien déçu, et que d'autres en France échappent aussi à bien des attaques. Mais enfin, en tout cas, ça prouve que pour monsieur Sarkozy, qui peut être avec l'apparition de monsieur Wauquiez à la tête de son parti, de son ancien parti, pensait peut-être pouvoir revenir, je ne sais pas, hein, en tout cas c'est une analyse que d'autres ont pu faire et que je vais faire aussi, peut-être qu'il s'était dit que quelque part il allait peut-être pouvoir reprendre la tête du mouvement, ou je sais pas bien moi, vous voyez, bon bah là en tout cas c'est peut-être un peu mort. Va-t-il rejoindre monsieur Fillon dans la détresse de la mise à côté, la mise au pas. Bon, on verra en tout cas. Ce qui est intéressant en tout cas dans tous ces trolls de droite, il faut bien le dire, et d'extrême droite, c'est que on les a pas vus s'exprimer de la même manière sur l'affaire Tarnac avec Julien par exemple. D'un seul coup, là, c'est plus des petits juges bobos, ce ne sont plus des juges rouges. C'est tout à fait normal ce qui arrive à cette équipe et la manière dont on les a traités de terroristes, alors qu'il, justement, il n'y a pas de preuves, que d'ailleurs ils ne sont plus, hein, jugés pour terrorisme. Il faut le rappeler que les débats vont avoir lieu jusqu'à vendredi 30 mars, si je ne me trompe pas, et que hier, pour la première fois, on a vu apparaître enfin un policier sans cagoule, sans voix trafiquée à la Dark Vador, qui est venu s'exprimer là comme ça avec le visage à découvert pour expliquer ce qui s'était passé. Il s'est fait un peu rentrer dedans quand même, il faut le dire, par la présidente du tribunal. La défense est un peu empêtrée dans aussi des situations. Il faut dire qu'il y a aussi de l'avocat spectacle, hein, dans ce procès. Mais enfin, c'est marrant comme il y a toujours ces beaux trolls qui ont une manière d'analyser les choses d'un côté et de l'autre. Et en tout cas, il y a quand même du soutien pour monsieur Sarkozy. Quoique les fidèles quand même commencent à se faire rares, il faut bien le dire.
En même temps, il cumule un petit peu. Hein.
Ah, qu'est-ce que tu veux ? Voilà. En fait, il faut quand même se rappeler que M. Sarkozy profite aussi de son passé de président en faisant des conférences assez bien payées à, j'allais dire à droite et à gauche. Non, juste à droite. Ah oui, j'ai bien le droit de rire ce soir. Donc voilà, donc bon, il se fait quand même du pognon aussi sur son passé, et que si jamais il est condamné là-dedans, bah, peut-être qu'il ne se fera plus d'argent là-dessus. Alors, nous allons poursuivre, je te propose, hein, je vous propose à tous les trois, pour parler de cette grève du jour, le 22 mars, une grève qui était annoncée depuis longtemps, qui était attendue, et qui, à Lyon comme ailleurs, s'est plutôt bien déroulé, on annonce, du côté des syndicats et des manifestants et des manifestantes, 15 000 personnes dans la rue, 9 700 je crois selon les chiffres de la police, quelque chose comme ça. Nous on va garder les chiffres de la rue, parce qu'on est du côté de la rue. Belle mobilisation pour des fonctionnaires, rappelons-le, en tout cas pour des fonctionnaires, pour des gens de la fonction publique. Rappelons que dans la fonction publique, il n'y a pas que des gens qui ont le statut de fonctionnaire, et donc même des gens qui n'ont pas ce statut étaient aujourd'hui en grève et à la manifestation. Il y avait donc des... on a pu voir des profs, et des précaires aussi, il y avait quelques étudiants, et puis évidemment il y avait des cheminots, cheminots qu'on attend de voir comment cette mobilisation nationale va pouvoir un petit peu se dérouler. Alors pour terminer un petit peu sur Lyon et sur cette manif du jour, il y a eu un moment autour de la préfecture une tentative de manif sauvage, comme enfin sauvage, c'est pas moi qui le dis, c'est la police, hein. En tout cas un cortège qui n'était pas légalisé, on va le dire comme ça, qui a tenté de ne pas reprendre les quais, hein, pourtant qu'ils sont piétons il me semble, avec les petits vélos, hein. Bon, il y a eu des lacrymos, hein, tout de suite, hein, c'est-à-dire que les flics ont empêché le cortège d'avancer, c'est assez classique. Il y a eu aussi pas mal de remontées sur le fait qu'il y avait beaucoup de policiers autour de cette préfecture. C'est toujours marrant de croire que des profs vont aller attaquer une préfecture. Enfin, moi, j'attends de voir. Mais je pense que je vais mourir avant de voir ça un jour. Mais je veux vraiment, vraiment voir ça un jour. Donc, on sait que toutes les manifestations sont extrêmement bien cadrées à Lyon depuis maintenant une bonne dizaine d'années, mais que même sur une petite manif syndicale avec des gens qui ne sont là que pour des revendications d'ordre professionnel, bah, on les accompagne et ensuite on jette des lacrymos sur ceux et celles qui essayent de faire trois pas un peu sur le côté. Donc, pour en revenir aux cheminots, on a donc cette réforme du ferroviaire qui a amené aujourd'hui certains et certaines à descendre dans la rue avec les fonctionnaires. Il faut savoir que Sudrad a appelé à manifester aujourd'hui. Alors, c'est vrai que quand on est un peu à l'écart des cheminots, on a un peu du mal à comprendre comment les syndicats s'unissent ou ne s'unissent pas. J'en bafouille. Parce que forcément, il n'y a jamais d'unité syndicale, mais c'est pas grave. Enfin, il y a un moment, il faut arrêter de croire que l'unité syndicale, c'est ça qui va nous sauver. Moi, j'y crois pas deux secondes. Il y a un moment aussi, bah, si jamais les gens sont à la CGT ou à Sud, c'est qu'il y a des raisons et que donc, bah, il faut aussi porter ces raisons, chacun et chacune dans notre coin. C'est pas grave. L'idée, c'est qu'à un moment, bah, on fasse ensemble contre le patronat ou là contre le gouvernement et ses projets. Alors l'idée donc c'est d'avoir des grèves perlées. Nous, vous savez, on n'aime pas bien les grèves perlées. Hein. Dans cette émission, on aime mieux la radicalité, on y va à fond, à la grève illimitée. Bon, ok, on rêve, on sait que c'est rarement faisable, que c'est toujours très compliqué, hein, vous n'allez pas me contraindre. Mais c'est vrai que pour une fois, je dois dire qu'il y a peut-être un petit peu comme de l'idée dans la CGT cheminot, d'après ce que j'ai pu en comprendre. Ce qui est marrant, c'est qu'évidemment, derrière, on a Sudrail qui ne suit pas du tout hein, l'idée. Mais moi, j'ai beaucoup aimé quand Sudrail explique qu'ils ne veulent pas faire une grille de loto. Vous pouvez aller voir hein, sur le site internet. Parce que, évidemment, cette grève perlée, ça plaît pas bien à Sudrail, qui a envie, je pense, d'une grève beaucoup plus brutale, systématique et qui aille beaucoup plus vite. Sauf que l'idée de la CGT, c'est évidemment, et puis des autres, hein, c'est de pas trop attaquer au portefeuille et au compte en banque les cheminots. Pourquoi pas hein, on a souvent eu cet argument. Et puis l'idée, c'est de voir aussi. Alors le gouvernement et la direction de la SNCF expliquent qu'il y a des négociations en cours et c'est pas bien de faire grève. Sauf qu'a priori, les négociations, elles avancent pas. Hein, pour l'instant, à la SNCF, donc c'est un peu facile de dire qu'il y a des négociations. Alors, moi, j'ai cru comprendre que il y avait donc un mail qui avait fuité dans la presse. Alors, soit la CGT l'a donné, soit les médias ont mis la main dessus. Moi, je m'en fous un petit peu, à vrai dire. Hein. Mais on apprend donc dans ce mail assez offensif que l'idée, c'est de désorganiser le travail. Et alors, ça semble scandaliser plein de gens.
Ah bah oui.
Mais alors moi j'ai cru qu'une grève c'était ça l'idée. Et puis alors c'était aussi de désorganiser la production. Et alors là c'est ce que je te disais tout à l'heure Jean-Yves, c'est soit la SNCF c'est une entreprise du service public, et évidemment le mot production est particulier, soit alors c'est une entreprise capitaliste, et bah oui bah du coup quand on fait grève, bah l'idée c'est de faire tomber la production et donc de l'empêcher et de poser des soucis parce que l'argent rentre plus dans les caisses de l'entreprise. Alors là évidemment on parle pas d'actionnaires de la même manière que sur Sanofi, les gens se reconnaîtront pour ceux et celles qui y travaillent, mais ça reste d'un seul coup, là on veut transformer cette entreprise dans une entreprise capitaliste, donc bah il y a un moment, bah il faut bien s'attendre à ce qu'il y ait une désorganisation de la production, donc qu'il y ait des grèves. Alors on est d'accord ou pas avec ce mode perlé qu'a mis en place une partie des syndicats de la SNCF, Mais on va quand même soutenir cette grève perlée dans cette émission, parce que l'idée, si elle est effectivement de désorganiser la production, bah c'est intéressant. Et alors, ce qui est intéressant dans ce mail aussi, c'est qu'on apprend qu'il y aurait d'autres actions que les grèves. Bah oui, c'est aussi ça, l'action des syndicats de combat. La CGT, parfois, n'est plus un syndicat de combat, mais il y a quand même certains syndicats de la CGT qui le font encore. À Sudrail, bah, ils ont su montrer aussi à une période qu'ils étaient un syndicat de combat, donc on attend un petit peu de savoir quelle autre action on va pouvoir découvrir dans les prochains mois, puisque je vous rappelle que ça va concerner 3 mois, avril, mai, juin. D'ailleurs, la SNCF a retiré à la vente déjà tous les jours qui sont pointés sur la grille de l'auto les réservations pour ces TGV hein, sur son site internet, donc vous n'avez plus accès à ces réservations, donc c'est très intéressant. Vous avez tout un tas de médias, vous inquiétez pas, qui vous expliquent les alternatives pour pouvoir vous déplacer en France quand on n'a pas de train. Nous ici, nous n'allons pas porter la voiture, vous savez que nous n'aimons pas la pollution des voitures, mais c'est très marrant comme tout de suite on a eu c'est à la fois ces mots de prise d'otage, hein, on a condamné ça nous encore une fois la semaine dernière. Non, il n'y a pas de prise d'otage quand il y a des grèves. Les prises d'otages, on le rappelle, c'est avec des armes et en général ça tue des gens, ou en tout cas il y a une violence. Les grévistes ne sont pas des terroristes, on le rappellera encore et encore. Donc il va falloir voir un petit peu comment tout ça arrive va se mettre en place, et est-ce que le gouvernement de M. Macron va lâcher prise.
Bon, je crois que c'est là où j'ai le plus de crainte, en fait.
Moi aussi.
Parce que là, je crois qu'on a vraiment, alors c'est peut-être une vision très personnelle, mais je pense qu'on a vraiment un gouvernement et une génération là, de gens qui viennent de l'entreprise quand même très majoritairement, hein, enfin, faut pas se mentir. Et quand tu viens de l'entreprise et que tu as été manager, tu sais contrer les petits énergumènes qui viendraient déstabiliser la tranquillité.
Mais surtout que je vois pas. Enfin, moi, je veux bien croire qu'on va arriver à se battre contre les idées, les principes et les actions de M. Macron, mais en tout cas, jusqu'à présent, tout passe. Ouais. J'ai un peu l'impression qu'on est dans une société, tant qu'on ne s'attaque pas à vos impôts.
La voiture à 80 km/h.
Voilà, alors ça fait causer aussi. Il y a des tas de choses comme ça qui font que, tant qu'on ne tacte pas au portefeuille quand même des gens, j'ai l'impression que les gens ne descendent pas trop dans la rue. Pourtant, les cheminots, il y a des gens qui s'agacent contre leurs soi-disant avantages. Il faut aller regarder un petit peu les primes qui sont touchées. Effectivement, et les primes, pour certaines actions, elles sont à 200 euros. Mais vous en avez d'autres, elles sont à 4,85. J'ai été regarder dans les documents qui sont mis en ligne d'ailleurs aussi par Sudrail. Il faut arrêter de vouloir absolument aller vers le bas. Moi, dans mon travail, j'aimerais bien avoir les mêmes avantages. Et puis, on peut se tourner aussi vers ces grosses entreprises. Je parlais de Sanofi tout à l'heure, mais on pourrait parler de Total, de L'Oréal, ces grosses entreprises en France qui ont aussi mis en place, par la lutte, par la négociation, des avantages pour leurs salariés, et tant mieux. Et tant mieux. Et qu'est-ce qu'on fait demain? On annule aussi les tickets resto parce que ça coûte trop cher à l'entreprise. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà, c'est ces petits bouts et ces petits bouts. Il faut arrêter de nous, les travailleurs et les travailleuses, qu'on se batte les uns et les unes contre les autres, plutôt qu'on essaye d'être solidaires, parce que derrière, il y a aussi une défense du service public. C'est pour ça aussi que les profs aujourd'hui étaient dans la rue. C'est parce que les profs, les instits, plein de gens. Et puis, vous savez qu'il y a beaucoup de mouvements aujourd'hui dans le service des urgences, par exemple, au JACL, à Lyon, parce qu'il y a une volonté aussi de maintenir le service public, parce que les gens travaillent dans des conditions qui sont horribles pour eux, mais qui sont horribles pour nous, les patients, pour nous, les élèves, et qu'il y a aussi cette défense-là de la part des fonctionnaires, et que ce ne sont pas que des profiteurs et des profiteuses.
Non, et d'ailleurs, je rajoute que sur les profs, il y a eu le même genre de petit schéma qui est sorti, de comparaison entre le statut et en tout cas le salaire des profs en France et dans d'autres pays européens. Et effectivement, là aussi, il faudrait qu'on apprenne à tirer vers le haut plutôt que de vouloir toujours tirer vers le bas.
Alors, je propose qu'on parle de toute autre chose maintenant. Vous savez que dans cette émission, on a une rubrique qui s'appelle les barbares. Ce sont les États qui assassinent, qui pratiquent la peine de mort. Et ce n'est pas moi qui vais m'y coller ce soir, mais c'est toi, Jean-Yves. Tu vas nous emmener en Oklahoma, au Japon et en Iran, il me semble.
Oui, pour que des bonnes nouvelles, vous imaginez bien. Donc, c'est les autorités, comme tu le disais, de l'État américain de l'Oklahoma qui ont annoncé mercredi dernier, le 14, qu'elle lançait des recherches pour mettre en œuvre un nouveau protocole de mise à mort. Donc là, normalement, on est censé se dire « super !» Enfin, de leur point de vue. Alors après le retour de la chaise électrique et des pelotons d'exécution, l'Oklahoma réhabilite donc les « chambres à gaz », entre guillemets. Hein. C'est une méthode alors qui n'a jamais été utilisée dans le pays. Pas tout à fait, mais j'y reviendrai un peu plus tard si j'ai le temps. et qui suscite quand même quelques inquiétudes, hein. On se dit tiens. Et en fait, donc l'Oklahoma a annoncé mercredi qu'ils allaient désormais exécuter les condamnés à mort par inhalation forcée d'azote si les résultats des expériences lancées s'avèrent concluantes. Alors le procureur de l'Oklahoma, hein, Mike Hunter, il a quand même précisé que, qu'ils ont choisi cette méthode pour pallier la difficulté croissante des États américains pour se fournir en substances nécessaires à l'injection létale. Parce que, pour rappel, en tout cas pour ceux qui ne suivent pas forcément toujours le Canyon Info, mais les substances qui permettaient
l'assassinat.
Merci, l'assassinat par injection. Ben, les produits venaient des labos pharmaceutiques européens qui refusent désormais de fournir donc les prisons américaines. Et il y a même des labos américains qui commencent tout doucement à se dire non, c'est pas bon pour notre image, on va arrêter de vendre des trucs. Donc ça devient très compliqué pour les États qui veulent continuer d'assassiner par injection.
Oui, on rappelle aussi qu'il y a eu des soucis avec ces injections parce que certains condamnés ont souffert et ne sont même pas morts à la fin. C'est-à-dire que pendant 2 heures, ils ont tenté de mourir de force, mais ils ne sont toujours pas morts, donc ils vont repasser, peut-être cette fois, à la chambre à gaz, je ne sais pas.
Hein, c'est exactement ça, donc je ne vais pas faire ce rappel-là, mais effectivement, il faut bien se rappeler de toutes ces personnes qui ont suffoqué pendant des heures. Donc motivées qu'elles sont par la recherche d'une méthode d'exécution plus humaine, je cite entre guillemets, hein, plus humaine, les autorités présentent donc l'inhalation d'azote comme le meilleur compromis disponible à ce jour. Un ancien élu républicain, a même allé jusqu'à dire que c'était une solution, je le cite, efficace, humaine et peu coûteuse. Alors,
on peut faire ça de groupe, c'est-à-dire que, parce qu'en fait, moi, ce que j'ai pas réussi à comprendre, c'est si jamais on allait mettre je vais dire un gars, parce qu'en général, les condamnés à mort aux États-Unis d'Amérique sont des hommes, sur une chaise sanglée, et puis qu'on allait faire vraiment la chambre à gaz et puis balancer le gaz, ou est-ce qu'on va lui mettre un masque qui est normalement censé vous sauver la vie sur la tronche avec du gaz que la personne va inhaler de force.
Ça, je pense qu'il faut attendre le résultat de leurs études.
Parce qu'en tout cas, si jamais c'est dans la même pièce sanglée, là, on peut le faire grouper.
Ah bah oui. Ça leur fera peut-être des économies.
Oui, si vous nous écoutez pour la première fois, sachez que nous sommes souvent très sarcastiques et donc nous avons un humour très noir sur la peine de mort parce que ça nous fait pas rire du tout en fait. Voilà.
Évidemment. Donc quand il parle de méthodes plus douces, humaines, etc., je veux quand même expliquer. Donc l'inhalation d'azote en fait, ça provoque un. Il dit aussi dans un premier temps une fatigue, une sensation d'étourdissement, peut-être des maux de tête. Peut-être, puis une difficulté à respirer entraînant la mort, la perte de connaissance, puis la mort. Donc en fait, vous étouffez et ensuite vous crevez. Et donc, ces gens-là présentent ça comme quelque chose de plus humain.
C'est moderne, quoi.
Ouais, je ne sais pas quelle définition ils ont d'humain, en fait. C'est peut-être ça le problème. Donc voilà. Donc juste pour rappeler quand même que cette méthode, elle n'est pas tout à fait nouvelle, en tout cas l'inhalation forcée elle n'est pas nouvelle parce que y avait déjà une méthode qui était lancée en 1920 et qui à l'époque utilisait du cyanure en forme gaz pour entraîner donc la mort, hein. Et la dernière remonte à 1999, après on a arrêté parce que ça provoquait d'atroces souffrances. Voilà, super, comme si les autres étaient meilleurs. Et en faisant toutes ces recherches, j'ai quand même trouvé une dernière info qui est intéressante quand même, je trouve, malgré tout ça. C'est un institut qui a fait une enquête, on va dire, sur le retour des Américains par rapport à la peine de mort. Aujourd'hui, il serait 41% contre. Alors, on est d'accord, ce n'est que 41%.
Mais c'est une belle.
Il y a 20 ans, ils étaient 20%.
Ouais, non, c'est une belle augmentation. Ouais, ouais.
Donc je pense que là aussi, enfin.
C'est comme les armes à feu et la légalisation de la possession des armes à feu. Il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Après, il faut se rappeler que c'est un grand pays avec des États extrêmement différents entre l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud. Et que les changements sont longs au niveau, en tout cas, de la nation américaine,
ça.
Si je peux le dire comme ça.
C'est ça. Et je terminais quand même par inhalation, électrocution, exécution, pendaison. On rappelle ici en fait qu'il n'y a pas de bonne méthode pour mettre à mort. Il y a plutôt l'abolition de la peine de mort qui sera bien mieux et plus utile. Autre info, c'est au Japon en fait, parce que je fais une petite rubrique, on va dire, autour de la peine de mort, et donc c'est le Japon. Et alors, 23 ans après l'attentat au gaz sarin qu'il y a eu dans le métro de Tokyo, tous les recours des condamnés à mort sont épuisés. Donc, en janvier, la justice japonaise a mis un point final à tous ces procès, et donc ce qui rend possible l'exécution très prochaine de ces personnes, selon une source très proche du ministère de la justice. Et on sait que 7 de ces 13 condamnés ont été transférés il y a très peu de temps dans d'autres centres, ce qui laisse à penser plusieurs médias japonais que les exécutions ne devraient pas tarder.
Oui, est-ce qu'il faut rappeler qu'au Japon, on n'est pas au courant quand les gens sont exécutés, hein. Donc c'est un petit peu la difficulté. Là, on en sait un peu plus parce que c'est une affaire qui a quand même secoué le pays. Là, on parle de gens qui ont assassiné des gens. Mais pour autant, leur mise à mort en tant que vengeance n'est pas terrible. Mais voilà, effectivement, on en sait un peu plus parce que c'est une affaire médiatisée. Mais c'est les gens, d'habitude, sont exécutés sans que les familles soient au courant.
C'est ça. Et alors justement, moi, c'est ce que j'ai trouvé, ce qui m'avait un peu étonné, c'est que même là, on sait que les 7 ont été transférés. On le sait... un peu par, pas par hasard, mais le reste on le saura pas parce qu'effectivement tout est très secret au Japon. Et la dernière info, en fait, ça vient d'Iran. En fait, c'est le rapport annuel sur la peine de mort en Iran qui est réalisé par la Ligue des droits de l'homme, on va dire, iranienne, et le collectif Ensemble contre la peine de mort. Et c'était juste pour donner quelques chiffres. En 2017, il y a au moins 517 personnes qui ont été exécutées en Iran. Donc je vous laisse faire le calcul, hein, pour arriver à combien d'exécutés par jour. 111 exécutions seulement, 21% ont été annoncées par des sources officielles. Les autres, ça n'a pas été annoncé. Et donc voilà, donc, c'est plein, plusieurs chiffres, mais je vous invite vraiment à essayer de trouver ce petit ce rapport annuel qui est toujours intéressant et qu'on n'oublie pas qu'ici, partout ailleurs, il y a des gens qui se battent, qui luttent contre cette, cette barbarie finalement qui est la peine de mort.
Voilà. Alors, c'est sans aucune surprise que M. Poutine a donc été réélu.
Effectivement.
Mais aucune surprise.
Non.
Je ne vais même pas faire de sujet d'ailleurs. c'est un succès quand même soviétique. 76,7% hein, des voix. C'est quand même pas mal comme victoire, il faut le dire. Alors, il y a quand même quelques inquiétudes et quelques soupçons de fraude. Voilà. Alors moi, ce que j'ai préféré, c'est quand même Reuters, vous savez, c'est une agence de presse comme l'AFP, qui a envoyé des journalistes observer les choses dans des bureaux de vote. Donc Reuters a simplement envoyé des gens dans 12 bureaux de vote, ce qui n'est pas grand chose vu la taille du pays, hein, il faut bien se le dire. Donc dimanche, les journalistes de Reuters ont donc observé ce qui se passait et ont pris des photos. Ce qu'il faut regarder les photos, en fait, aller sur internet et chercher, s'il vous plaît. Et Reuters a compté que 17 électeurs, rien que dans ces bureaux de vote, étaient venus voter plusieurs fois. Et on voit bien la photo numéro 1, la photo numéro 2, c'est la même personne. Je vous assure, c'est la même personne. Et il y en a, ils n'ont même pas changé la casquette ni le t-shirt. Hein.
C'est vrai.
Rien. Alors, il paraît que c'est beaucoup de fonctionnaires qui ont été amenés à aller voter deux fois, qu'il y en a même, on les a emmenés en bus.
Ah ouais, organisé quoi.
Ah oui. Alors de toute façon, il paraît qu'il y a un certain nombre de gens qui ont été amenés forcés jusqu'à certains bureaux de vote, hein, quand même. On est en Russie, c'est pas un grand pays avec une liberté de la presse, une liberté d'opinion. Je vous rappelle que des opposants n'ont pas pu se présenter hein, à ces élections. Que M. Poutine est quand même plutôt du côté des fachos, hein, on va dire comme ça, assez brutalement, que du côté de la grande démocratie. Hein, avec, voilà. Donc, bon, du coup, Reuters est allé plus loin, est allé présenter les photos à des officiels russes. Paraît que c'est pas vrai. Mais non, c'est pas les mêmes. Et bon, on leur a même répondu à Reuters qu'en fait, c'était des jumeaux.
Ah oui.
Donc Reuters est quand même allé vérifier, les gens n'ont pas de jumeaux.
Ils ont quand même vérifié.
Non, mais Reuters s'est quand même fait un petit peu des papiers là-dessus parce que, bon... On les a quand même envoyés un peu boulés, si vous me permettez l'expression. Quand même, l'affaire des jumeaux, moi j'ai trouvé ça énorme. C'est-à-dire que t'as le gars, il est habillé pareil avec la même casquette. Donc voilà, même les jumeaux, hein, c'est connu, s'habillent pareil, hein, surtout à 45 ans. Donc bon, il y a du bourrage d'urne, des électeurs qui ont été emmenés a priori un petit peu de force en autocar, des fonctionnaires qui ont participé à des votes doublés. Donc ces élections ne sont pas très franches, encore une fois, en Russie. C'est pas très bon groupe pour l'opposition qui risque encore une fois de pas pouvoir s'exprimer librement dans les mois et les années à venir. C'est pas très bon pour la liberté de la presse, la liberté d'opinion. Bon, que vous dire? Monsieur Macron a donc fait des commentaires sur cette élection et le communiqué de l'Élysée dit: au lendemain de l'élection présidentielle et au moment où Vladimir Poutine s'apprête à exercer une nouvelle fois les plus hautes fonctions exécutives, le président de la République a adressé à la Russie et au peuple russe au nom de la France ses vœux de succès pour la modernisation politique, démocratique, économique et sociale du pays. Bon, c'est pas franchement un mot d'amitié quand même.
Tu trouves ?
Ah bah quand même, pas franchement, parce qu'il y en a des fois avec certains qu'on n'aime pas, ils ont été beaucoup plus francs, nos dirigeants.
Ouais, mais là c'est Vlad, hein, c'est pas pareil quand même.
Voilà, oui, bah on sent quand même qu'il y a, enfin c'est pas facile, je pensais que je parlais à Vladimir Poutine d'une manière générale. Est-ce que tu veux un petit peu nous parler, s'il te plaît, de ce documentaire de France 3 que tu as vu ?
Eh ben allons-y.
Qui est passé hier soir, hein,
la télé ? Oui, très rapide. C'était hier soir et c'est disponible en replay, c'est pour ça que je me permets de vous en parler, parce que je pense que ça fait partie des documents.
En télévision, donc à la demande. Pardon. En répétition, vous savez que nous aimons pas trop les anglicismes ici.
Pardon, je ne suis qu'en remplacement, rassurez-vous. Pardon.
Ne t'inquiète pas, Laurent n'arrive pas non plus à passer outre mes recommandations.
Bon, alors ça va. Et donc, c'est disponible hein, sur plusieurs plateformes, etc. Je vous laisserai chercher, mais ça s'appelle Pédophilie, un silence de cathédrale de Richard Puech. Ça dure 1h35. C'est. Beaucoup de survivants et survivantes de la pédophilie qui témoignent à visage découvert, qui relatent les faits et qui ce documentaire en fait nous emmène aussi après un peu plus dans l'Église, dans le clergé et dans sa capacité à éloigner les pédophiles plutôt que de les amener à la justice pour que les victimes puissent être reconnues comme victimes. C'est très organisé et vraiment je vous invite à le regarder parce que des victimes qui brisent les silences, c'est toujours à soutenir, je pense vraiment. Et je voudrais juste faire un petit truc, c'est que on a deux trois personnes qui m'avaient dit oui, mais enfin c'est les curés, etc. Enfin, faut pas laisser vos gamins à des gens qu'on connaisse pas. En fait, on se rend compte quand on regarde le documentaire que en fait, pour les gens qui sont en dehors d'une religion, vous comprenez pas ça, mais quand vous êtes dans une religion, la communauté religieuse est quelque chose de très intime finalement et de très proche en fait. Donc il y a des liens, etc. Donc voilà, c'est moi je voudrais juste rajouter ça, c'est que c'est oui, il faudrait pas croire que toutes ces choses-là sont faites par des monstres qui ne connaissent pas les enfants. Ils les connaissent très bien. C'est justement pour ça qu'ils se permettent d'abuser de leur autorité et de tout ce qu'ils représentent. Donc voilà, donc c'était vraiment bravo à toutes ces victimes. Je ne sais pas si elles nous écoutent ou pas, mais en tout cas, bravo à elles de briser ces silences et bah, nous toutes de les soutenir et de diffuser leurs paroles. Tout ça pour qu'un jour, peut-être, on arrive à mettre fin à cet abus d'autorité et de viol et de violence sur les enfants. Voici.
Alors, moi je propose qu'on attaque un petit peu d'hallucination maintenant. Comme ça, on verra si on a le temps de parler d'autres choses à la fin. Mais en tout cas, j'ai envie que nos invités puissent dès maintenant s'exprimer. Alors, j'avais envie de recevoir des membres de l'équipe qui organise ce festival Hallucination Collective. Il me semble, Benjamin et Fabien, que c'est la 11e édition, c'est ça, cette année de ce festival ?
C'est ça, c'est la 11e édition, la 8e, 9e, 8e, sous le nom Hallucination Collective, ouais. Puisque tout début c'était l'Étrange Festival de Lyon. Ouais. À la 3e édition, il y a eu donc ce changement de nom qui a en fait rien changé si ce n'est le nom. C'est simplement pour avoir un nom vraiment à nous, puisque en fait l'Étrange Festival de Lyon c'était une déclinaison d'un événement parisien qui a une vingtaine d'années. Qui est très très connu, qui était surtout très très connu et réputé parmi les cinéphiles et les bisseux qui vont chercher un petit peu des choses un petit peu rares et différentes. Ben quand il a été créé, quand à l'époque encore, c'était difficile d'aller chercher certains films. Aujourd'hui, on a à peu près accès à tout, mais à l'époque, l'Étrange Festival de Paris, c'était vraiment une référence en termes de défrichage et pour amener des films vraiment invisibles au public français. Donc voilà, on avait un peu pris la suite, ensuite c'est devenu Hallucination Collective.
Alors, pour être très très pratique, on va rappeler que ça se passe au Cinéma Comédia à Lyon et que c'est du 27 mars au 2 avril 2018 que évidemment il y a un site internet que vous retrouverez toute la programmation dessus. avec tout ce qu'on va vous raconter. Alors, on avait envie de savoir plein de choses. C'est qui, Hallucination Collective? Je sais pas vous, combien vous êtes. C'est quoi comme groupe, comme association? On a un petit peu de savoir juste un petit peu déjà comment ça s'organise tout ça aussi.
Ouais, et c'est quoi le cœur du truc en fait? Parce que jusque-là, j'ai pas l'impression qu'on l'ait dit, ou c'est moi.
C'est vrai. Alors, c'est un festival de cinéma avec du film dedans.
Ça tombe bien.
Hein? Et donc, c'est un peu halluciné, c'est barré. Moi, j'aime bien ce terme, barré. Hein. Mais vous avez le droit d'en donner tout à fait une autre définition.
Marginal, c'est pas mal.
Ouais, c'est bien aussi, c'est vrai. Ouais. Ouais. Différent.
Différent, et puis surtout ce qu'on essaie de passer, c'est des films rares.
Ouais.
Ça, c'est un peu c'est des films rares parce que souvent ils sont différents, ils sont un petit peu barrés. Mais c'est vrai que pour nous, dans la prog, c'est un des critères. C'est de passer des films qu'on voit pas ou peu en salle. C'est-à-dire que des fois, on essaie d'éviter quand même, si un film est très très disponible en DVD ou en Blu-ray, enfin en vidéo, on essaie d'éviter. Mais par exemple, là, cette année, t'as un film qui est assez connu qui s'appelle The Lords of Salem. The Lords of Salem, voilà, il y a beaucoup de gens qui connaissent Rob Zombie, beaucoup de gens qui l'ont vu. Par contre, des gens qui l'ont vu en salle, il y en a très très peu, puisque les projections de ce film-là en salle en France, elles se comptent sur les doigts d'une main. En fait, il y en a quasiment peu. À ma connaissance, il y en a eu une ou deux. Voilà.
Et c'est une réflexion que Laurent m'a fait quand il a regardé la programmation en disant, oh, faut absolument que j'aille voir ça. Et je lui dis, mais non, t'es pas libre ce jour-là. voilà, et ça c'était fait. Donc, je sais pas combien vous êtes par exemple à organiser ce festival.
Alors, on va dire que le noyau dur, c'est-à-dire les gens qui sont vraiment là à l'année, qui sont permanents, entre guillemets, on est 5-6. Après, quand on s'approche du festival, on monte à une douzaine, c'est-à-dire dans les 3-4 mois qui précèdent le festival. On a des gens qui viennent un peu nous aider pour faire de la presse, pour faire de la com, faire du graphisme, etc. Et puis sur le festival en lui-même, on arrive à 25-30 personnes, toutes bénévoles. Donc ça va de la personne qui va simplement déchirer les tickets, un peu tous les postes.
Et comment vous vous organisez alors pour la sélection? C'est votre propre culture individuelle, votre travail collectif? Parce que c'est quand même une sacrée recherche. Comme en plus, il faut le dire, c'est quand même des films qui viennent un petit peu de partout dans le monde. On peut se dire que c'est quand même pas si facile d'arriver à dénicher ces petites perles.
Ouais, c'est un gros brainstorming avec, pardon pour l'anglicisme, je sais pas comment on dit, une soupe de cerveau. Non, enfin voilà, on se retrouve à tous. Tout ce qu'on est, et voilà, on dresse des listes, on essaye de trouver. Le choix se fait de plus en plus selon le format aussi auquel on peut trouver.
Parce que ça vous demande d'avoir un vrai rapport aussi avec les distributeurs, du coup, d'avoir quand même une certaine complicité avec eux au bout de toutes ces années pour arriver, peut-être avoir aussi des conseils, des choses qu'on vous amène, qu'on vous propose, ou c'est que de la recherche de votre part?
Non, on essaie de... On garde à l'esprit le fait, est-ce que le film est disponible ou pas. Par exemple, même des fois, ça va être à l'inverse. On sait que, c'est un peu comme tu dis, on sait que tel film a été restauré, que tel film va ressortir, etc. Donc on suit ça pour rebondir dessus. Après, oui, c'est beaucoup des propositions, et nous on essaie aussi de... C'est pas juste balancer des films comme ça. Nous, dans la prog, on travaille par thématique. Donc, quand il y en a un qui propose un film, on lui dit, t'es bien gentil, mais ton film, il faut que tu l'intègres dans une thématique, et donc que tu proposes 3-4 autres films qui puissent compléter cette thématique.
Alors, moi, j'aimerais juste lire la phrase qu'il y a sur le site internet. Je vais vous citer, si vous voulez bien. Ouais. Il était temps de payer notre tribut à ces ténébreux appuis. C'est pourquoi nous nous sommes placés cette année sous le très impie patronage des femmes puissantes, libres et fascinantes, les sorcières. Ça nous renvoie évidemment à ce visuel, cette affiche qu'on trouve cette année. Alors, comment vous créez vos visuels là? Parce que c'est toujours assez détonnant quand même. J'ai vu qu'il y avait une expo aussi qui allait avoir lieu
au Comédia, dans l'ASA.
Voilà, au Comédia. Qui c'est qui a créé cette affiche là cette année par exemple?
En fait, les affiches depuis le début, c'est un des membres de l'asso, des cofondateurs de l'asso qui est derrière le festival, qui s'appelle Pierre-Yves, qui n'est pas du tout professionnellement, on va dire, illustrateur. Il fait ça sur son temps libre parce qu'il aime ça. C'est lui aussi donc qui fait toutes les affiches. Il n'est pas du tout graphiste non plus, donc il est bibliothécaire pour devenir. Et donc c'est lui qui est un peu notre directeur artistique, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il a chaque année, il crée son visuel. On choisit d'abord notre théma, puisque le visuel en question fait toujours écho à notre théma principal, donc cette année les sorcières. Mais voilà, il a à peu près carte blanche pour faire ce qu'il veut. En général, c'est pas trop mal. Enfin, cette année, en tout cas, c'est très bien. On trouve ça très bien. Cette année.
Ouais, c'est vrai que c'est toujours des visuels qui sont quand même, enfin, je sais pas, Jean-Yves, ce que tu en penses, qui sont quand même toujours assez frappants. Mmh. Tu t'es baladé aussi un petit peu sur le site. Cette expo, elle va réunir quoi un petit peu aux comédias d'affiches Vous en parlez assez brièvement sur le site internet.
Ouais, c'est une expo d'un dessinateur italien, voilà, Guido Crepax, voilà, qui a produit beaucoup de BD dans les années 70-80, il me semble. Et voilà, on a contacté son éditeur français qui nous a fait parvenir des choses. Voilà, on a fait une petite sélection.
C'est des planches essentiellement de trois œuvres de Dracula, donc son adaptation de Dracula, une adaptation de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, et son œuvre, Baba Yaga, qui est dont on passe une adaptation en film.
Alors, j'ai pas compté le nombre de films, vous le savez par cœur.
Il y en a 30, non ?
26 longs métrages, plus mal, une séance court métrage.
Il y a une compétition aussi ?
Il y a une compétition long métrage et une compétition court métrage. Puisque, en fait, c'est vrai, on a deux aspects, nous, dans notre prog. Quand on parlait des thématiques. Quand on parle de la carte blanche, c'est plutôt des films de rétro, des films de patrimoine. Donc ça, c'est vrai, c'est la partie prog qui est peut-être la plus excitante pour nous, puisque c'est là qu'on peut vraiment façonner des choses. Et à côté de ça, il y a la compétition qui là regroupe des avant-premières, des films inédits, des films qui parfois sortiront en salle. Parfois sortiront pas du tout en salle, ni même en vidéo.
Parfois directement en VOD d'ailleurs.
Ouais, de plus en plus.
Ce qui nous permet de les diffuser en salle et de faire un petit cadeau aux spectateurs.
Et donc là, on est plus dans l'actu. Donc c'est une autre facette de la prog, et c'est vrai qu'on est beaucoup on a pas mal de films fantastiques là-dedans, mais pas que, parce que c'est ce qu'il faut préciser sur Hallucination Collective. On n'est pas un film, on n'est pas un festival de films fantastiques, on n'est pas un festival de séries Z, on est un festival de, on passe un petit peu de tous les genres, et le point commun, ce qui peut relier tous ces films, c'est ce qu'on disait, leur rareté, leur marginalité, leur côté un petit peu différent, on l'espère.
Alors bon, moi j'ai un peu repéré quelques films et puis quelques soirées. Évidemment, vous savez qu'on a des fois des sujets sur la Corée du Sud dans cette émission, donc forcément moi la soirée avec les deux films, je les ai cling cling, ça, mes yeux ont clignoté tout de suite. Ce sont, je me souviens plus quand c'est cette soirée, je suis en train de la
vendredi
30. Le vendredi 30, c'est ça, avec deux films qui vont se suivre. C'est très très chouette. Est-ce que vous avez soit un film que vous avez vu et que vous nous recommandez, soit un film que vous n'avez pas vu et que vous espérez bien voir, l'un et l'autre?
Moi, il y a un film que je n'ai pas vu parce qu'il n'est passé qu'en avant-première dans deux trois festivals. C'est ce film mexicain qui s'appelle Tigers Are Not Afraid. Voilà, moi je me suis toujours intéressé de très près au cinéma mexicain, et bon voilà, j'ai lu des très très bonnes choses dessus. C'est vraiment un film que je suis très impatient de voir.
C'est un film de Issa Lopez, c'est ça, qui date de 2017. Voilà. Hein, donc c'est un film plutôt récent. Mm-hmm. Donc celui-là, tu l'as pas vu et voilà. Tu l'attends.
Il fait partie des avant-premières.
Toi, Benjamin, est-ce que tu as un film que tu as vu et que tu te dis que ça, vraiment, il faut que les gens ça les intéresse, ou tu as peut-être le droit de me dire deux films aussi, tu sais, j'aime pas censurer les gens. Ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas vu et que tu dis ça
Moi, dans ce que j'ai pas vu, j'attends pas mal. Je vais t'en dire deux directement là. J'attends pas mal Kist et Spider. Les deux sont un peu le même genre. C'est deux films des années 90, mais qui tous les deux sont passés un petit peu inaperçus. Kist est dans la théma sorcière. C'est un sujet vraiment un petit peu particulier. Je vais pas trop en dire. Et Spider aussi, je connaissais vraiment, j'en avais jamais entendu parler. Film laiton qui est très très influencé par la peinture. Ça a vraiment l'air d'être quelque chose visuellement de un vrai festin visuellement.
On pourrait dire aussi que il y a du ciné rétro, et chez moi le rétro n'a absolument rien de désobligeant, puisqu'il y a un film de Todd Browning, L'Inconnu, qui est à mon avis un film à voir, ne serait-ce parce que le cinéma de Todd Browning est toujours très décalé, donc c'est assez intéressant. Moi j'ai repéré alors un film que je n'ai absolument pas vu, hein, mais Un cas pour un bourreau débutant, moi m'interpelle, je dois dire, particulièrement. Et puis je le disais, il y a cette soirée avec ces deux films sud-coréens que j'espère bien voir pour pouvoir ensuite raconter à nos auditeurs et nos auditrices à quel point c'était bien, parce que ça nous arrive quand même de chroniquer le cinéma sud-coréen dans cette émission. Donc c'est The Freak et Welcome to Dongmakgol, sans l'accent bien évidemment. Donc le vendredi, c'est une belle programmation, à la fois, comme on le disait, donc marginale, barrée, décalée, j'ai aussi envie de dire. Et puis c'est un travail beaucoup sur l'image. Moi je trouve dans beaucoup des films qui sont présentés, comme tu le disais, il y a une particularité aussi d'auteur et de travail à l'image. Il y a du cinéma en noir et blanc, il y a Muta Fukaz, qui est un format aussi particulier, puisque là on est sur l'animation.
Oui.
C'est un film francophone.
Je ne sais pas s'il est enfin, officiellement franco-japonais.
Franco-japonais, ouais.
Voilà, mais c'est un projet, donc c'est tiré de la BD du même nom, qui est une BD ouais. française. Mais ils ont eu un petit coup de main sur la production et l'animation par le studio Katsé, donc qui est le studio japonais qui a fait Mind Game, Amer Béton. Donc ouais, l'animation a l'air assez classe. Ouais.
Donc on peut retrouver l'annonce ou des teasers aussi sur le site internet d'Hallucination Collective. On trouve aussi l'information évidemment sur le site du Comédia. Est-ce que vous avez encore envie de nous rajouter des choses sur ce festival, nous dire une chose sur le collectif, sur ce rendez-vous, sur un film?
J'ai une question qui ne suit absolument pas dans tout ça. Mais est-ce qu'il y a des rencontres de prévues avec des réalisateurs ou des réalisatrices, avec du public, etc.?
Alors cette année, on a en fait depuis ça doit être la cinquième année maintenant, on donne une carte blanche à un invité. Pour l'instant, ça a été que des réalisateurs et réalisatrices. Vous savez, c'est un réalisateur belge qui s'appelle Fabrice Duvels, qui a fait Calvaire, Alléluia, Vignan, son dernier film qui était plus sa première incursion hollywoodienne, qui s'appelait Message from the King. Qu'on a passé l'an dernier. Donc il a une carte blanche, il choisit trois films qu'il vient présenter. Donc là il y a une rencontre à chaque fois où il vient discuter des films avec le public. Après cette année on attend une réponse pour un invité sur un des deux films britanniques qu'on a en compétition. Mais c'est vrai que sinon on n'a pas d'autres invités cette année, ce qui est tout simplement c'est comme ça. Il se trouve que cette année on a pas beaucoup d'invités. C'est une coïncidence parce que les films qu'on a au programme n'appelaient pas forcément d'invités, soit qu'ils sont morts, soit qu'ils habitent,
soit qu'ils sont pas dispo,
soit qu'ils habitent très loin, soit qu'ils n'étaient pas dispo. Donc c'est pas un souhait, c'est comme ça. On peut un petit peu le regretter. C'est toujours bien hein, quand on a une séance avec un invité. Bon là c'est comme ça, mais nous on fait aussi. En fait, on accompagne chaque film, c'est-à-dire qu'il y a toujours on fait toujours une présentation des films, puisque c'est des films un petit peu particuliers, qui ont une histoire un petit peu particulière. Bref, c'est des films sur lesquels il y a des choses à dire, donc on essaie de faire des présentations à chaque fois pour.
Oui, puis ce qui est intéressant avec la carte blanche, c'est que le réalisateur vient pas parler de ses films, mais vient parler de son intérêt pour les films qui l'ont porté.
Moi, je trouve ça,
quoi.
C'est très intéressant.
Donc, et à chaque fois qu'on a, enfin, à chaque fois, c'est moi, c'est des séances que je conseille beaucoup parce que à chaque fois, on a, enfin. Il y a une vraie intensité, quoi. Il y a toujours eu un partage assez. Il y a souvent en plus un question-réponse assez long après la séance. Et il y a souvent un. Comment dire. Ouais, enfin. Bref, je me suis
dit. D'une passion, enfin, on sent.
Oui, c'est
voilà,
ça, il y a un regard d'artiste.
Exactement,
quand même,
exactement, ouais. Et.
Oui, à la passion. Ouais,
ils choisissent les films, ils viennent en parler, donc vraiment, ouais. Ils choisissent des films dont ils ont envie de parler.
Qu'ils sont. Et moi, je trouve que c'est un travail qui est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on a souvent dans la musique. Par exemple, quelqu'un va venir parler de ce qu'il a poussé à être musicien ou musicienne, de ses influences. C'est-à-dire qu'on a toujours ce travail-là dans la musique. Et dans le cinéma, c'est pas courant, donc je trouve que c'est plutôt une belle opportunité de comprendre aussi comment, en tant qu'artiste, réalisateur, par exemple, on peut aussi se construire et puis ce qu'on aime. Qui, parfois, on s'aperçoit qu'aussi des gens ont une pratique artistique qui ne correspond pas du tout à ce qu'en fait. Les amène dans leur propre passion. Mmh. Avec Laurent, on avait pu, par exemple, rencontrer Daniel Humer, jazzman, et puis, qui écoute aussi du métal, par exemple. Et pourtant, dans sa pratique publique, c'est pas exactement le même rendu. Et je trouve que c'est bien d'avoir justement cette ouverture. Et moi, c'est quelque chose que je trouve intéressant dans ce rendez-vous, c'est justement ces cartes blanches et cette ouverture artistique, et de comprendre aussi la coulisse à l'arrière de l'homme ou de la femme qui vient de parler de son travail et à travers, finalement, le travail des autres. L'air de rien, c'est aussi ça qui se transmet.
Et puis c'est des gens souvent, enfin voilà, quand tu parles de cinéma, enfin, ceux qu'on a eu, par exemple, quand t'as Christophe Gans qui se met à te parler de cinéma, tu écoutes quoi, juste. C'est vraiment un gros niveau. Après, on peut aimer ou pas ses films. Moi, je suis pas forcément fan de tous ses films, mais le lire ou l'écouter parler de cinéma, c'est passionnant quoi.
Je vois que vous avez des logos, vous êtes soutenu par la ville de Lyon et la région. C'est plutôt bien d'avoir un soutien public parce qu'en ces temps difficiles et en particulier avec la région, c'est un soutien qui est récent que vous espérez poursuivre.
Ville comme région, ça fait quelques années. Je ne sais plus exactement depuis quelle édition, ça devait être depuis la quatrième, je pense. Avec des subventions qui sont restées à peu près les mêmes depuis cette époque-là. Nous, on est un festival qu'on. Enfin, on n'a pas un gros budget, on n'a pas des gros besoins non plus. Je pense qu'aussi, on a la chance d'avoir dans l'équipe des gens qui savent. Qui sont capables de faire des choses qui fait que le festival nous coûte beaucoup moins cher que ce qu'il devrait. Par exemple, s'il faut faire des sous-titres, on va pas passer par un labo qui va nous faire des sous-titres. S'il faut au niveau de la technique aussi, on fait tout nous-mêmes, on va pas passer par des gens extérieurs où ça doublerait ou triplerait le budget. Donc on s'en sort pas mal avec le soutien de la mairie et de la région financière. Enfin, voilà.
Oui, même au niveau du graphisme, on est autonome.
Ça reste un travail artisanal pour un très beau rendez-vous en fait. Et quand on dit artisanal, c'est quelque chose de chouette, c'est-à-dire que c'est fait par des gens passionnés qui mettent, j'imagine, beaucoup de temps et d'énergie.
Ouais, pas mal, ouais.
Vous n'avez pas l'image, mais il y a des sourires qui s'affichent quand même sur les visages. Écoutez, si vous avez un dernier mot, sinon.
Non, bah, enfin, c'est moi pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que c'est important pour nous de pas. Enfin, oui, c'est un festival. On pense pas être un petit festival ou un. Enfin, en tout cas, le côté familial, le côté cool, c'est quelque chose qu'on revendique parce que on est tous bénévoles. On passe beaucoup de temps là-dessus, donc on va pas. C'est pas pour se prendre la tête, pour. Courir, aller faire du réseau, aller faire courir après les subventions. Enfin, voilà, on fait ça pour le fun avant tout.
Ben ouais, ça, on a bien compris.
Voilà. Parce que vous aimez ça, quoi.
Exactement.
Ouais, ça fait plaisir.
Ben, en tout cas, merci bien pour toutes ces explications. Donc, on rappelle, du 27 mars au 2 avril au Cinéma Comédia, toute la prog, évidemment, sur le site internet que je ne connais pas par cœur, mais enfin, il suffit d'aller sur un moteur de recherche et de taper Hallucination Collective, tout ça au pluriel. Et ben voilà, allez au ciné, hein? Que dire ? Alors, pour continuer, si tu veux bien, sur les subventions, non, mais je faisais une petite remarque, parce que on vous a parlé de la dernière idée de Monsieur Wauquiez, Laurent de son prénom, de financer pour l'édition 2019 Tomorrowland, avec l'accent, ce festival qui va se passer à la montagne, puisque Laurent Wauquiez a décidé de financer la culture d'une drôle de manière, donc c'est 400 000 euros hein, quand même. Pour l'instant, on vous rappelle qu'il enlève des sous un petit peu à d'autres gens qui en avaient peut-être aussi besoin, et pour un rappelons-le encore une fois, un rendez-vous musical qui se porte très bien avec sa billetterie parce que pourquoi financer des festivals qui peuvent se débrouiller parfois avec une billetterie, qui n'ont pas forcément besoin dans ce sens-là, parce que comme je le disais la semaine dernière, un festival commercial, ça n'a rien de sale, hein, c'est commercial, point, oui. C'est juste un rendez-vous. Bon, alors il paraît que ce n'est pas le budget culture qui est visé, mais c'est le budget tourisme. Je tenais à le préciser et à donner quand même cette information importante cette semaine, c'est que c'est pas dans les mêmes cases, hein, pour dans le budget de la région, c'est donc en fait une affaire de tourisme, c'est de développer la montagne. Parce que ça vous gagne.
L'Alpe d'Huez en avait besoin.
Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Mais c'est un peu comme Jazz à Vienne, qui est un festival que moi je trouve vraiment super parce qu'on s'y sent bien mieux qu'à Fourvière. Enfin, en tout cas, c'est mon avis personnel. C'est bien plus sympathique, convivial, on peut y pique-niquer et pourtant Jazz à Vienne n'a pas besoin de subventions. Ouais. Pourtant, M. Wauquiez continue à donner un peu plus de subventions. Chaque édition. Donc voilà, je tenais juste à préciser quand même que voilà, c'est donc un budget tourisme, c'est ce qu'on a appris cette semaine, et non pas un budget culture, mais il faut dire qu'aussi il y a pas mal de gens du spectacle et de la culture qui sont montés un petit peu au créneau ces derniers jours pour dire que ça commençait à bien faire tout ça. Pour information, il faut se souvenir que la ville de Lyon comme la région ont arrêté de donner des subventions triannuelles, c'est-à-dire qu'avant, vous aviez des subventions pour 3 ans sur des subventions de fonctionnement. Je ne parle pas au projet, mais au fonctionnement, et puis bah, maintenant c'est passé à l'année, donc pour un certain nombre de structures bah, c'est compliqué, parce que si vous avez une année de trésorerie ça peut peut-être fonctionner, mais ça demande quand même de s'ajuster saison après saison, et qu'en plus on rappelle que quand vous êtes sur une structure, vous avez une saison de septembre à juin en général, ou jusqu'à juillet, et que les subventions sont données en année civile, donc tout ça rend les comptabilités de certains lieux et de certaines compagnies ou ensembles de musique un petit peu fragiles et compliquées, et que les subventions de la région peuvent arriver très tardivement, c'est-à-dire que vous allez être au courant pour l'année 2018 en mai ou juin. Donc là, que de savoir qu'à l'Alpe d'Huez, ils ont déjà du pognon pour 2019, vous voyez un petit peu la différence. Voilà, je voulais juste préciser cette chose.
Pour tout dire, on passe en commission, enfin, ce sera validé, notre subvention le 29 mars, le festival commence le 27 mars. Donc voilà. Voilà.
C'est un petit peu la problématique hein, des subventions sur la région et sur Lyon, c'est que tout ça devient très fragile, pas forcément pérenne, et puis qu'on ne sait plus bien pourquoi les gens ont des sous, pourquoi ils n'en ont plus. Tout ça n'est pas toujours argumenté. Il nous reste 7 minutes pour parler d'un autre rendez-vous, si tu veux bien. J'avais envie de... Alors, ça va être du favoritisme, je vous le dis, parce que c'est une soirée qui est organisée par des gens que j'aime. Voilà, on va dire comme ça. C'est avec des membres de Radio Canu qui vont animer musicalement cette soirée du vendredi 23 mars, et ça va se passer où ? Dans les locaux des syndicats de la CNT 69, donc 44 rue Burdeau sur les pentes de la Croix-Rousse. C'est une soirée en soutien au collectif de salariés du foyer d'accueil médicalisé de l'échappée de la sauvegarde du Rhône. Il y a une grève reconductible depuis le 2 mars dernier, et donc il y a une soirée organisée avec une caisse de grève qui sera mise là de devant vos yeux. C'est gratuit, hein, vous pouvez rentrer comme vous voulez, en sortir comme vous voulez, y re-rentrer comme vous voulez. L'idée, c'est de mettre un peu des sous dans la boîte pour soutenir les grévistes de l'échappée, de la sauvegarde. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des lieux comme ça où les gens se battent pour leurs conditions de travail, mais parce qu'elles sont liées à la manière dont les gens sont accueillis. Je cite juste une phrase, donc ces personnes, hein, c'est-à-dire les personnes qui sont sur ce lieu, pas les salariés, hein, mais les personnes qui sont accueillies dans le foyer. Ces personnes méritent de vivre dans un lieu qui leur permette de s'épanouir et qui puisse accueillir de façon si particulière d'être au monde. Voilà, l'idée c'est de vraiment à la fois de permettre à ces travailleurs et travailleuses d'avoir des conditions de travail correctes, dignes, pour pouvoir faire un travail digne et pour pouvoir accueillir des gens dans la dignité. Tout ça est fortement lié. Ça va être, je pense, une belle soirée à la fois musicale. Voilà, aussi, là, il y a du favoritisme dans l'air. Je vous laisse aller voir l'affiche. Je l'ai mis en tout petit sur... je le mettrai tout à l'heure sur le blog du Canu Info du jeudi, mais vous pouvez la retrouver sur Rebellion, par exemple, sur le site de la CNT, enfin... C'est multi possibilités. Et puis que ça va être une chouette rencontre aussi avec des gens qui sont en lutte. Ça peut être aussi l'occasion de rencontrer des syndicalistes en autogestion à la CNT. Là aussi, je fais du favoritisme, soyons très clairs. Mais voilà, c'est toujours bien aussi de pouvoir discuter en ces temps pas toujours faciles, surtout si vous êtes isolé dans vos boulots, de pouvoir venir rencontrer, de boire un coup. Voilà, c'est tout ça à la fois. Au local de la CNT, donc c'est demain vendredi à partir de 21h au 44 rue Burdeau sur les pentes de la Croix-Rousse. Voilà, pour cette information que j'avais envie de vous donner, et je crois que c'est tout pour ce soir.
Moi, je voulais juste rajouter un petit mot ou deux sur une agression, enfin sur une attaque du GUD sur le lycée autogéré à Paris. Donc c'était pour leur apporter le soutien, et parce que ces petits nazis sont venus, ont brisé quelques petits trucs, ont fait des saluts nazis. Donc voilà, quand il y a l'extrême droite qui pointe, hein, on se serre les coudes. Donc voici, et je voulais juste aussi rajouter une autre petite info, parce que c'est le genre de truc qui passe un petit peu des fois, c'est sur la Russie. Renseignez-vous autour des cas d'Alexandre Kolchenko, qui est un antifasciste ukrainien qui a été enfermé en Russie, qui est donc emprisonné évidemment, et qui est dans un état de santé de pire en pire, et donc c'est aussi faites connaître autour de vous toutes ces situations-là, de toutes ces gens qui sont effectivement malheureusement souvent isolés, mais ont au moins porté leur situation, ça les fait encore exister. Voilà pour
Écoute, il n'y a pas très longtemps, j'ai terminé en parlant vraiment en courant de Reporty, cette application mise en place par la ville de Nice. Donc je vais terminer tout aussi rapidement sur cette application. On vous avait raconté que l'idée de Monsieur Estrosi, c'était de proposer en test une application qui permettait à 2000 volontaires de raconter ce qui pouvait se passer en cas d'attaque terroriste, d'incivilité, d'agression et tout ça. Et donc vous pouviez envoyer des textos, faire des vidéos, enfin voilà, ouais, toute une chose comme ça. Il y a un collectif qui s'est monté à Nice contre cette application mise en place par la ville. Et ben la CNIL a mis un avis défavorable sur cette application. Oui, en expliquant que c'était intrusif. Très intrusif, pour les citer jusqu'au bout, et non proportionné. Le dispositif est un peu trop important a priori. On rappelle que Nice est une ville avec de la vidéosurveillance extrêmement
développée,
merci. L'idée, c'est que c'est pas la seule de ville qui est en train de partir là-dessus. Il y a Marseille aussi qui est en train de tester un certain nombre d'idées dans le même genre. Donc la science-fiction est plus si loin, si vous savez, si vous lisez un petit peu quelques littératures d'anticipation. Vous savez qu'on nous a parfois proposé et parlé de ces villes qui seraient extrêmement surveillées, de ces citoyens, citoyennes qui seraient tous surveillés et même s'auto-censureraient. Et s'auto-surveillent. Ben on y est en fait, puisqu'il y a déjà des mairies qui cherchent à trouver des outils pour nous surveiller sans notre accord. Voilà, mais c'est intéressant d'avoir l'avis de la CNIL derrière tout ça.
Et bien c'est l'heure, je crois.
Et bien on va vous laisser, on se retrouvera la semaine prochaine avec Laurent qui va revenir de là où il est.
Et merci voilà.
En tout cas, s'il nous écoute, on lui fait un petit ciao ciao. Oui. Et puis bah oui, donc vous pouvez avoir demain un autre Canu Info avec une autre équipe. Ça sera pour le Canu Info du vendredi. Quant à toi, je te souhaite une très bonne émission pour dimanche. Merci. Avec la causerie, avec tes petits amis. Merci à Fabien et Benjamin de vous être déplacés jusqu'à nous.
Merci de votre accueil.
Et on vous souhaite une très bonne soirée, et on va vous laisser ce soir avec l'équipe de la petite cuillère. Ciao, ciao.
C'est parti, au revoir.